Europe 1. Écoutez le monde changer. 10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré,
Johan Usaï,
Michaël Darmon.
Bonjour Marc Fesneau.
Bonjour.
Vous êtes ministre des Relations avec le Parlement. Alors les scientifiques le rappellent régulièrement, ce n'est pas le virus qui fait l'épidémie, c'est l'homme. Le mot épidémie vient du grec qui circule parmi le peuple. Alors on a beaucoup parlé du virus depuis des mois. Avec vous ce matin, on va aussi parler du peuple, de l'état dans lequel il se trouve après cette crise, de la cité démocratique avec les élections qui reprennent. Et avec elle, les batailles d'idées qui se préparent pour les prochaines jusqu'en 2022. Et le mot de la semaine, c'est peser. Le nouveau groupe de députés contestataires veut peser de l'extérieur. Un courant écologiste veut peser, lui, à l'intérieur du groupe majoritaire. Et ce matin, dans le journal du dimanche, Gérald Darmanin, élu maire de Tourcoing depuis hier, déclare « je veux peser ». Marc Fesneau, vous êtes l'un des dirigeants du Modem, un des trois ministres d'ailleurs issus de cette formation dans le gouvernement. Alors non, ce parti ne comporte pas qu'un seul membre, qui s'appelle François Bayrou. Il a aussi 46 députés et une génération de dirigeants comme vous. Alors vous nous direz comment vous comptez peser. Nous sommes heureux de retrouver après de longues semaines d'absence nos partenaires de CNews et Johan Usaï. CNews diffusera donc ce grand rendez-vous à 12h avec bien évidemment Nicolas Barré et des Échos. Et on va commencer avec ces mots d'Édouard Philippe. On écoute, on regarde.
J'assume avoir considéré qu'un bureau de vote était un lieu indispensable à la vie du pays. J'assume d'avoir considéré, comme le Conseil scientifique, et au vu des conditions d'organisation des bureaux de vote qui avaient été mises en place, qu'il n'y avait ce jour-là pas plus de risques à aller voter qu'à aller, par exemple, faire ses courses.
Bonjour Marc Fesneau. Alors, bonjour. Il y a le risque sanitaire limité, selon Édouard Philippe, mais il y a aussi le risque politique que constitue l'abstention. Est-ce que vous craignez, lors de ce second tour, une forte abstention? On peut se dire, c'est ce que disent aussi certains membres de l'opposition, qu'il y a une crainte, c'est que ce scrutin, la légitimité de ce scrutin, soit remise en cause.
Bon, il me semble qu'il y a deux sujets devant le choix qui a été fait par le gouvernement, qu'évidemment je partage, parce que je pense qu'à un moment, il fallait sortir du no man's land dans lequel nous étions rentrés à l'issue du premier tour et qui était nécessaire d'arriver à un deuxième tour. D'ailleurs, je dis au passage, qu'aurions-nous dit si nous avions interrompu un processus électoral, qui soit un processus, par exemple, d'une présidentielle au premier tour, et on aurait bien trouvé légitime qu'on fasse le deuxième tour. Et donc, il y a deux sujets. Le premier sujet, c'est la participation. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, réunira à nouveau les formations politiques la semaine prochaine pour regarder les voies et moyens pour essayer de favoriser le plus possible la participation. Quelles sont les voies et moyens? Un, d'avoir des conditions sanitaires qui permettent à ceux qui sont plus en crainte de pouvoir se déplacer. Et puis deux, peut-être regarder sur les affaires de procuration ce que nous pouvons faire pour favoriser le plus possible l'expression des citoyens. Puis il y a un deuxième sujet qui est aussi levé par un certain nombre, qui est celui de la capacité à faire campagne dans le temps qui est imparti entre aujourd'hui.
Richard Ferrand notamment l'avait souligné.
Aujourd'hui et le 28 juin, je pense qu'on a capacité à faire campagne. Je rappelle d'ailleurs dans un entre-deux-tours classique, il y a en gros 3 jours et demi, 4 jours de campagne. Et là, nous aurons quasiment 4 semaines de campagne, et donc ce qu'on peut perdre en intensité, on peut le gagner dans la durée. Il me semble que c'est une voie raisonnable qui a été choisie pour que, au fond, l'ensemble des collectivités puissent s'installer, les 5000 communes qui n'ont pas pu encore trouver leur maire, si je peux dire, et puis les communautés de communes, c'est un sujet que je connais bien, et qui ont besoin de trouver des exécutifs stables pour participer à la relance.
À la relance, absolument. Nicolas Barré.
Alors, on est effectivement entre les deux tours de ces municipales. C'est toujours un test pour une majorité. Ce qu'on voit, c'est que dans les trois grandes villes, Paris, Lyon et Marseille, et trois grandes villes françaises, eh ben, le risque, peut-être pour la majorité, c'est que ces trois villes soient dirigées par des coalitions écologistes et de gauche. Ce serait un désaveu pour votre majorité?
Bon, d'abord, Paris, Lyon, Marseille ne sont pas la France, permettez-moi de vous le dire, il y a 36 000 communes.
Certes, mais enfin, ce sont quand même trois grandes villes emblématiques.
Je vais répondre à votre question, c'est des villes qui sont évidemment emblématiques. On verra bien ce qu'il adviendra le 28 juin, il faut laisser les électeurs. Ne préemptons pas le débat avant qu'il ne commence. Il va redemarrer sur les bases qu'on a connues au premier tour.
Oui, mais si on vous demande d'analyser
sur l'analyse du premier tour, j'y venais, sur l'analyse du premier tour, on voit bien que dans ces grandes villes-là, les scores n'ont pas été au rendez-vous des attentes. Je pense que dans ces grandes villes-là aussi, la division, je pense à Lyon, mais je pense à Paris aussi, a été souvent un facteur de difficulté pour la majorité. Cet élément de la division, il doit nous interroger sur la nécessité d'être rassemblés quand on vient affronter des scrutins électoraux. Et donc c'est à ça qu'il faut réfléchir.
Ce sera une question que l'on va également aborder. À propos Paris, Agnès Buzyn est-elle toujours votre candidate, Les Républicains En Marche et Modem? Est-ce qu'elle vous fait part de ses intentions? Où en est-elle?
À ma connaissance, elle est toujours candidate. Je n'ai pas personnellement eu part de ses intentions, mais je crois qu'elle est candidate et qu'elle souhaite mener à bien jusqu'au bout la campagne qui était celle du premier tour.
Pour vous, les déclarations qu'elle avait faites au début du confinement, de l'épidémie, sur la mascarade, sur le fait que tout cela était un problème sanitaire qu'elle avait alerté, qu'elle avait donc averti, tout ça ne met pas à mal justement cette unité ou cette capacité de pouvoir être cohérent.
Je crois qu'elle a la ferme volonté d'aller au bout de la logique qui est celle des élections municipales il y a deux tours et donc d'être présente au deuxième tour.
Est-ce que vous craignez justement une deuxième vague de cette épidémie qui pourrait venir à nouveau remettre en cause le calendrier électoral? Ou alors, quand on entend les scientifiques, la plupart d'entre eux disent qu'il n'y aura pas de deuxième vague, est-ce que ça veut dire aussi qu'il y a le principe de précaution que le gouvernement applique et donc qu'il y a aussi de votre part, de la part du gouvernement, un excès de prudence peut-être?
Il n'y a pas d'excès de prudence, il y a juste ce virus, ce coronavirus, il nous a appris à tous, responsables politiques, scientifiques, citoyens, il nous a appris la prudence. Et donc à la fois on donne la perspective de vouloir tenir un second tour au 28 juin et on se donne aussi la capacité, si il s'avérait qu'il y avait un pic épidémique qui remontait.
Ça c'est une crainte qui est réelle pour vous ou pas?
Mais c'est une crainte qui est réelle, oui. Et les mesures de protection à la sortie du confinement sont des mesures de protection qui visent à éviter un deuxième pic épidémique. Reconnaissons que dans les pays qui ont procédé comme nous au déconfinement, depuis un certain nombre de semaines, manifestement et heureusement, le pic épidémique ne repart pas de façon très, très importante, sans doute parce que les citoyens, et il faut saluer l'engagement des citoyens français comme de tous les citoyens qui se sont engagés dans ce déconfinement, sont plus prudents désormais et veillent aux gestes barrières qui ont déjà été maintes fois énoncés.
La communauté scientifique sur laquelle le gouvernement s'est beaucoup adossé depuis le début, a l'air quand même d'être assez optimiste. L'ensemble des messages qui émanent d'elle, c'est qu'on serait engagé dans une forme de recul du virus. Mais à ce moment-là, vous, le gouvernement, vous dites on reste quand même échaudé, on ne va pas vers cet optimisme.
La volonté de faire n'exclut pas la prudence. Et donc la volonté que nous avons dans le processus électoral et aussi dans les autres phases du déconfinement, qui sont les phases de déconfinement économique, je pense au secteur touristique, nécessite des éléments de prudence, mais aussi la ferme volonté d'en sortir. Comme l'a dit le Premier ministre à de multiples reprises, il faut qu'on apprenne à vivre avec ce virus. Et donc il faut qu'on ait à la fois les gestes qui nous protègent du virus, et en même temps il faut que la vie reprenne, et la vie démocratique aussi.
Justement, vous faites toutes les semaines un point avec le Premier ministre de la situation sanitaire du pays. Si on vous entend ce matin, ça signifie qu'aujourd'hui vous n'avez pas de raison particulière d'être alarmiste concernant l'évolution de cette situation?
À date et à l'heure où je vous parle, non, puisqu'on voit bien que à la fois le nombre de nouveaux cas reste assez stable et plutôt en diminution. Le nombre de personnes hospitalisées ou en réanimation diminue de façon continue depuis plusieurs semaines désormais. C'est l'effet aussi du confinement, il faut dire les choses comme elles sont. Pourquoi on a pu stopper brutalement cette progression qui était assez incroyable, qui était de manière exponentielle, qu'on a vu d'ailleurs dans des pays qui n'ont pas choisi le confinement. Je pense au Brésil par exemple. Ça a permis de stopper le virus et donc on est plutôt... Est-ce qu'on peut être optimiste? En tout cas, on est raisonnablement optimiste sur le fait qu'à ce stade, manifestement, nous maîtrisions cette remontée épidémique.
Mais vous vous rendez compte, ça veut dire aussi que si c'est cela, on aura eu une activité dite saisonnière de ce virus.
Et il faut être prudent là-dessus.
Ça reposerait la question quand même de la décision. On a mis à bas l'économie pour deux mois de virus.
Je ne dis pas que vous êtes dans la facilité.
Je vous soumets la question. Oui. Parce que c'est une réflexion qui existe aussi.
Oui, j'entends cette réflexion. C'est toujours a posteriori, une fois que les événements se sont déroulés, de dire qu'on aurait pu les voir se dérouler comme ils se sont déroulés.
C'est un questionnement légitime.
Plus des deux tiers de l'humanité ont fait le choix du confinement. Oui, c'est sans doute que tout le monde a eu le sentiment qu'il y avait un risque qui était extrêmement important. Et on voit bien que dans les pays qui ont fait le choix, pour la plupart d'entre eux, qui ont fait le choix du non-confinement, ceux qui ont fait le choix du non-confinement, ils sont face à un pic épidémique qui est très virulent et qui n'est pas acceptable. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a fait le choix, au fond, de préserver au maximum les populations. Je pense que c'est plutôt une heureuse nouvelle. Je pense que c'est plutôt bien pour ce qu'est l'humanité et ce qu'elle porte de valeur.
C'est le message principal. On a arrêté l'économie pour sauver des vies.
Mais on a décidé de choisir ce qui n'avait pas été fait sans doute dans des pics épidémiques précédents, dans des épidémies précédentes. Moi, je pense qu'il faut aussi en être, comment dirais-je, fier, au fond, de ce choix-là. Après, on a le défi de la relance et de la reprise économique qui est devant nous, et puis de la remise en cause, sans doute, d'un certain nombre de principes qui étaient ceux qui régissaient le monde avant cette crise épidémique.
Juste avant qu'on revienne un petit peu sur les élections municipales.
Excusez-moi, j'ai imparfaitement répondu à votre question. Est-ce que c'est un phénomène épidémique saisonnier? Certains scientifiques commencent à le dire. On voit bien à quel point la science elle-même a été contrecarrée par ce virus dont on mesurait mal la contagiosité, le taux de mortalité, le côté saisonnier ou pas. Il faut être prudent les uns et les autres. On verra bien. C'est l'avenir nous le dira, malheureusement seulement.
En tout cas, sa rapidité a aussi un lien aussi avec une société hyper connectée,
bien sûr, hyper
mobile.
Et hyper sociable. Nous sommes une société hyper sociable. Et on s'est rendu compte dans le confinement à quel point cette sociabilité nous manquait.
En un mot, la question au fond, est-ce qu'on a vu ça à travers l'histoire? Les épidémies ont scandé et marqué les changements d'époque. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est encore le cas?
Oui, bah, je pense que à la fois l'épidémie et le confinement et la phase de déconfinement dans laquelle nous sommes rentrés ont marqué durablement l'opinion et durablement les responsables publics. Je reprends la phrase de Paul Valéry, on a repris conscience que nos civilisations étaient mortelles et que nos systèmes étaient fragiles et donc mortels. Et donc c'est ça que ça revient à interroger, évidemment, brutalement.
Alors on prend l'avis démocratique et politique, Nicolas Barré.
Alors Marc Fesneau, est-ce que vous saviez que vous avez un collègue du gouvernement qui bénéficie d'un traitement de faveur? Votre collègue Gérald Darmanin, ministre des Comptes Publics, a été élu hier maire de Tourcoing et il va rester ministre alors que pourtant le Premier ministre avait dit que ça n'était pas possible. Pourquoi ce traitement de faveur?
Chouchou, comme Gérald, c'est pas une question de chouchou. Gérald Darmanin avait très clairement posé les choses, y compris d'ailleurs au Premier ministre, au président de la République. C'était la volonté qu'il avait, s'il était élu maire, de siéger. Il avait dit d'ailleurs pour un certain temps, considérant que ça ne pouvait pas être dans la durée inscrit. Gérald Darmanin ne fait que ce qu'il avait dit qu'il ferait. Il avait dit qu'il se présenterait pour être maire, qu'après il lui appartiendrait de faire un choix, mais que dans un temps, il l'a redit ce matin dans une interview, dans un temps qui serait déterminé, il choisirait. Mais à ce stade, moi je ne vois rien qui soit en défaut de la parole qu'il avait rendue publique, y compris pendant les élections municipales. Personnellement, j'ai fait le choix de ne pas siéger pour être maire. Je suis conseiller municipal et j'ai installé le conseil municipal dans ma commune de Marchenoir la semaine hier après-midi. J'avais fait le choix de ne pas être maire, mais... Dans les deux cas, nous avions fait un choix que nous avions indiqué devant l'opinion publique. Donc il n'y a pas de surprise à attendre.
Marc Fesneau, vous êtes ministre chargé des relations avec le Parlement. Vous le savez mieux que personne. Un député aujourd'hui, par exemple, ne peut pas être maire. Comment est-ce que vous expliquez à ces députés, mais plus généralement à l'ensemble des Français, qu'un ministre aujourd'hui, en première ligne, chargé du budget, aujourd'hui, peut diriger cet exécutif local?
Mais d'abord, c'est...
Qu'est-ce qui justifie cette
exception? Pour les députés, c'est une loi, pour les ministres, c'était une règle. Mais peu importe le sujet, au fond, Gérald Darmanin avait lui-même été maire et ministre au début du quinquennat. Deux, je connais la capacité de Gérald Darmanin à la fois mener de front son rôle éminent et qui sera d'autant plus éminent de ministre.
Seul, beaucoup ont cette énergie depuis longtemps.
Non, mais je suis d'accord avec vous, mais il a fait ce choix. Excusez-moi de vous dire, il l'a fait en transparence. Personne n'est pris en défaut, ni les électeurs de Tourcoing, ni le membre du gouvernement que je suis, puisqu'il l'avait dit. Et donc, au fond, faire ce qu'on avait dit, il ne peut pas y avoir de surprise particulière. Il a dit que ça serait pour un temps déterminé et qu'il le faisait dans le contexte particulier que nous vivions et qu'après, il lui appartiendrait
donc
de faire son choix.
Donc, il avait décidé, à vous entendre, qu'il s'exonérerait de la règle.
Non, mais
le fait de l'avoir annoncé permettait de le faire.
Le fait de l'avoir annoncé fait qu'il l'a fait en transparence. Et donc, on ne peut pas lui en faire grief.
La transparence, voilà, c'est essentiel. On va en parler, effectivement. On se retrouve dans quelques instants.
10h, 11h. Le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré,
Yoann Uzaï,
Mickaël Darmon.
Et l'on retrouve notre invité, Marc Fesneau, ministre donc MoDem des Relations avec le Parlement. On écoute, on regarde Anne Hidalgo.
Vous savez, je crois que ce sujet-là, il illustre à merveille le centralisme, le jacobinisme et la bureaucratie. Voilà, qu'on fasse confiance aux maires. Et on est capable d'organiser les choses. Je suis très très en colère, j'avoue que je ne comprends pas. Et les Parisiens vont être punis, encore un week-end.
Donc à propos de la fermeture et l'ouverture des parcs et jardins, Nicolas Barré.
Alors Anne Hidalgo, la maire de Paris, en colère, vous l'avez entendu, elle est bien placée d'ailleurs pour être réélue. Vous la voyez comme finalement la principale opposante de gauche à ce gouvernement?
Non, pas particulièrement. Après elle exprime... les desiderata, au bon sens du terme d'ailleurs, d'un maire dans son territoire. Et le gouvernement, il est confronté aussi à la réalité d'essayer de regarder ce qu'est l'intérêt général. Ça n'empêche pas qu'on puisse regarder avec les collectivités locales ce qu'on a fait dans un certain nombre de sujets, quelles sont les meilleures voies et moyens de déconfiner. Mais je ne crois pas qu'il y ait lieu de nouer des polémiques inutiles. La volonté du gouvernement, c'est de procéder à un déconfinement. Ça a été dit par le Premier ministre et le Président de la République par étapes qui permettent de maîtriser et pour ne pas se retrouver dans la situation d'un pic épidémique qui revienne au galop, si je peux dire les choses.
Mais alors justement, ça questionne la méthode. On va continuer sur le sujet.
Sur ce point-là précisément, pourquoi est-ce que l'État ne laisse pas les maires agir? Vous le faites bien avec les plages. Les maires aujourd'hui peuvent demander, en concertation avec le préfet certes, mais peuvent demander l'ouverture des plages. Pourquoi ça n'est pas le cas pour les parcs et les jardins à Paris?
Parce que la différenciation était le principe posé.
Oui, mais excusez-moi, le principe a été posé et le principe a été appliqué. Ça s'est appliqué sur la question des écoles, ça s'est appliqué sur la question des plages, et d'ailleurs au-delà des plages, des forêts, autant que je me souvienne. Ça s'est appliqué sur un certain nombre de sujets. Et sans doute la question sera reposée, puisque le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur reposeront au fur et à mesure du déconfinement la question des parcs et jardins. La question des parcs et jardins, c'était sur les plages, et en particulier les plages qui avaient sollicité ça. C'était la question de dire, on a suffisamment d'espace sur les plages pour pouvoir maîtriser un déconfinement. Ça n'est pas forcément le cas dans les parcs et jardins. Et donc, il faut à la fois écouter les maires, et je pense que ce qu'on a fait beaucoup dans cette phase de déconfinement, les mêmes d'ailleurs, souvent qui disent « on veut pouvoir le faire », disent « il faut aussi nous protéger si jamais il y avait un sujet en termes de responsabilité ». On n'est pas la moindre des contradictions. Et donc, qu'on puisse travailler avec les maires, en particulier la maire de Paris, pour essayer de regarder les voies et moyens pour réouvrir les parcs et jardins, il nous a semblé qu'il fallait procéder par étapes. On est dans une ville qui est hyper concentrée en termes de population. Et les parcs et jardins, en particulier en cette saison, sont des lieux où les gens sont très agglutinés. Et vous me direz, ils le font parfois
ils
à l'extérieur.
Ils plus en d'autres endroits par voie de conséquence.
Ils le font parfois aussi à l'extérieur. Mais c'est cette mesure-là qu'il faut regarder. C'est pas une question de savoir si Anne Hidalgo est la chef de l'opposition de gauche. Je pense que ça serait mauvais procès que lui faire ce procès-là, et deux, ça serait une mauvaise manière que d'essayer d'attiser entre le pouvoir central, entre guillemets, et le pouvoir local, des querelles qui sont inutiles. Je crois qu'on essaie d'œuvrer collectivement pour faire en sorte que les déconfinements se passent le mieux possible. Et ça se passe aussi par un dialogue entre l'État et les collectivités. Assumons aussi le fait que parfois, l'État considère que la proposition des collectivités soit pas forcément dans le sens de l'intérêt général. L'État n'a pas toujours raison, les collectivités locales n'ont pas toujours raison, et je suis un élu local et un territorial par construction depuis bientôt 25 ans.
Alors juste en amont, il y aura une évolution.
Je suis un défenseur des collectivités locales, mais il y a parfois des contingences d'intérêt général qui nous poussent à prendre des décisions.
Juste pour conclure sur ce dossier, il y aura une évolution possible ou ça va...
Mais le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur ont dit qu'ils regarderaient le sujet très rapidement au gré du déconfinement. On a décidé de faire un déconfinement par étapes pour qu'il soit maîtrisé. Assumons, et c'est ce qu'on a décidé d'assumer. Et on a été un peu les seuls à l'assumer, et bien on l'assume.
Alors, le déconfinement se fait aussi dans la politique, qui se traduit ces jours derniers par des mouvements assez marqués dans la majorité, puisque c'est le moment qui a été choisi par des députés marcheurs pour faire scission et créer un nouveau groupe parlementaire, le 9e à l'Assemblée, baptisé Écologie, Démocratie, Solidarité. Les figures de l'aile gauche des marcheurs le dirigent. Pour vous, quel message envoie-t-il à ce stade du quinquennat ?
Moi, je pense qu'il y a des choses de nature différente. Il y a un certain nombre de députés qui avaient déjà choisi de quitter le groupe. La République En Marche, on fait le choix de créer un groupe carrément en dehors du groupe La République En Marche, et au fond en dehors de la majorité, puisqu'ils ont dit qu'ils n'étaient ni dans la majorité ni dans l'opposition.
Moi, en tant que groupe minoritaire, ça ne veut pas dire qu'ils sont dans l'opposition.
Ils ont dit ni dans la majorité ni dans l'opposition. D'accord. J'ai envie de dire, on verra à l'usage où ils sont, parce qu'au fond, c'est sur les textes qu'on va juger les uns et les autres dans le moment de reconstruction et le moment, me semble-t-il, dans lequel nous allons rentrer, qui nécessitera plutôt d'essayer de trouver des voies de convergence. Et donc c'est ça le premier sujet.
Mais pourtant, ils n'ont pas été exclus de La République En Marche, donc ils sont où alors ?
Je ne rentre pas dans les sujets partisans. Il appartiendra à La République En Marche de voir au fur et à mesure et dans les semaines et les mois qui viennent quelles sont les décisions qu'ils en prennent. Et moi, je regrette une décision dont je comprends mal la temporalité et dont je comprends mal les fondements. Moi, je pense que le débat politique, il peut se mener à l'intérieur des groupes, à l'intérieur des partis, et que c'est là qu'on arrive à faire avancer les choses. Et donc, je comprends mal la temporalité de ce groupe, au-delà de certaines individualités qui avaient décidé déjà de faire entendre leur voix de manière individuelle. Mais je pense que dans le moment qu'on vit, on a besoin plutôt de collectif que d'individualité.
Et
plutôt
de converger
que de diverger. Voilà, c'est aussi simple que ça. Moi, je pense que le pays a besoin plutôt d'unité. Et honnêtement, je vais vous dire les choses. On en parle ce matin sur votre plateau et à la radio. Mais au fond, je pense que c'est un peu le cadet des soucis des citoyens. Le souci des citoyens, c'est de voir comment on va remettre en route la machine économique, quelles sont les conséquences économiques,
bien entendu,
quelles sont les conséquences dans leurs
souvent
entreprises.
Souvent, les questions politiques sont dites par là, les politiques, même comme étant le cadet des citoyens.
Questions politiques, c'est pour moi la question de la reprise, la question de la relance, la question du cap qu'on donne au pays. C'est pas la question de savoir s'il y a
la question de l'écologie, il pose aussi quelque part. Peut-être y répond-il de manière un peu satisfaisante pour vous, mais la question qui est posée, c'est... Au fond, qu'en est-il de cette protection, de l'écologie, des justices sociales ? Ce sont des questions politiques qui sont posées. Elles peuvent aussi intéresser le citoyen.
Mais je ne dis pas qu'elles n'intéressent pas le citoyen. Je dis simplement que la démarche de constitution d'un groupe ne me paraît pas intéresser les citoyens. Après, les sujets qui sont posés, mais ils ne sont pas posés que par ce groupe. Pardonnez-moi, ils n'ont pas le monopole
justement,
des questions qu'ils posent. C'est des questions qui sont posées à la majorité, c'est des questions qui sont d'ailleurs aussi posées à l'opposition, c'est de savoir sur quelle base on fait la reprise et la relance, quelles sont les orientations supplémentaires en termes de transition écologique qu'on peut porter, quelles sont les mesures de justice sociale qu'on peut porter. Reconnaissons par exemple que dans la crise que nous avons vécue, l'arrêt brutal de l'économie que vous évoquiez, il a été fait le choix de protéger les salariés au travers du dispositif de chômage partiel. C'est quand même une mesure au fond de justice sociale.
Alors, à propos
qui a été
convergence,
par le gouvernement.
À propos convergence possible, Yohann Uzay.
Vous parlez des idées. Le président du groupe MoDem à l'Assemblée nationale, que vous connaissez bien, a dit qu'il était du rôle du MoDem d'élargir la majorité et à vous, au MoDem, d'en faire des alliés. Alors précisément, quelles sont les idées, quels sont les projets qui pourraient vous rassembler ?
Il me semble qu'on a plusieurs sujets. On a des sujets d'abord, c'est pour ça que la temporalité compte, on a des sujets de court-moyen terme qui sont les sujets d'agir puissamment sur un certain nombre de secteurs économiques qui sont en grande difficulté. Je pense au secteur du tourisme. Le Premier ministre a annoncé un plan massif pour aider le tourisme, au-delà du moment du déconfinement qu'ils vont vivre à un moment ou à un autre, et qu'on espère le plus bref possible. On a le secteur de l'aéronautique, qui n'est pas que Airbus à Toulouse, qui est dans l'ensemble des territoires français. Il y a des tas de sous-traitants, des tas de gens qui traitent avec Airbus. Et on voit bien comment ce secteur va être impacté lourdement. On a le secteur de l'automobile. Ça, c'est des secteurs dont on voit en première intention qui vont être très rapidement touchés, qui sont déjà touchés d'ailleurs. On a le secteur du bâtiment, qui peut avoir des difficultés liées aux mesures sanitaires nécessaires pour reprendre l'activité. Donc on a un certain nombre de secteurs dans lesquels il va falloir agir très rapidement. Il n'empêche que dans ce moment de relance et de reprise, il faut aussi que nous indiquions le sens qu'on veut donner à tout ça. Moi, je pense qu'on a besoin, dans la politique qu'on a menée et qu'on va mener, de redonner du sens. Et par exemple, la question de la transition écologique est un élément important. Nous partageons le sentiment, collectivement, et c'est l'apanage de personne, qu'il faut sans doute aller plus loin et donner des orientations plus précises sur la façon dont on veut avancer sur la question de la transition écologique. Je prends le secteur de l'automobile. Bruno Le Maire a clairement indiqué que évidemment, il y aurait une aide puissante qui serait donnée au secteur automobile, mais il fallait que plus résolument ce secteur s'engage dans la voie de la transition. Mais voyez bien que c'est une affaire de transition. On ne peut pas ajouter des ruptures aux ruptures. Parce que moi, je pense aussi aux salariés qui sont dans
transition
ce
ou urgence
qui peuvent être inquiets.
On va prendre un exemple concret, Marc Fesneau. Le MoDem travaille sur une proposition de revenu minimum garanti à partir de la fusion des guichets sociaux. Est-ce que là, c'est une idée, un projet sur lequel vous pourriez vous rassembler?
Qui est partagé aussi, par exemple, par ce fameux nouveau groupe qui...
Mais pas seulement, pardonnez-moi, c'est partagé aussi par un certain nombre de députés du groupe La République En Marche.
Est-ce que vous sentez que ça fait son chemin, justement?
Mais je pense que c'est une idée qu'il faut creuser. Il faut en regarder les voies et moyens, il faut regarder le terme auquel il faut se faire. Pour ça que je pense à la temporalité. Il me semble que la temporalité immédiate, c'est d'essayer de trouver les voies et moyens de la reprise et de la relance. Cette question du revenu universel avec des versions qui divergent, enfin, ou qui diffèrent, on ne va pas dire divergent, entre les uns et les autres, c'est une question qui est intéressante, qu'il faut peut-être mettre sur la table. Mais
le groupe MoDem, ministre y est favorable ?
Je n'ai pas discuté avec lui de ça, mais c'est une question qui est sur la table parce que c'est une question dont on le voit bien, qu'elle pose la question du rapport au travail et qu'elle pose la question de faire converger un certain nombre de systèmes pour à la fois les rendre plus simples, les rendre plus accessibles et combiner activité et revenus. Et donc c'est une question, le groupe MoDem et d'autres posent aussi la question de mieux répartir la richesse. C'est la question de l'intéressement et je vois que Gérald Darmanin dit en gros la même chose aujourd'hui dans le journal du dimanche. Donc c'est des questions qu'il faut mettre sur la table. Mais je répète, on a le court moyen terme auquel il faut répondre. Deux, ça, on est sur des sujets qui sont plus moyen long terme. Cette question de la refonte de nos dispositifs et d'un revenu universel. Et puis on a un sujet encore plus moyen terme et long terme, c'est au fond qu'est-ce que cette crise nous apprend de la fragilité de notre système économique ? L'hyperspécialisation, le flux tendu, l'interdépendance qui devient une dépendance au fond de nos économies sur un certain nombre de produits et qui doit se régler à la fois dans le champ national et dans le champ européen, ça c'est des sujets de moyen long terme. On voit bien qu'on ne réoriente pas son activité industrielle en 5 minutes et pas plus en un mois. Mais il faut donner le cap de ces éléments-là. La question du télétravail, elle a été d'une certaine façon imposée par le confinement. Mais au fond, je suis sûr qu'il y a des enchaînements à tirer du télétravail et de la façon dont les gens l'auront accepté, les gens l'auront vécu et comment dans les entreprises ça peut mieux se développer. Parce que c'est aussi une contribution à la lutte contre le réchauffement climatique en luttant contre les déplacements. Vous voyez, il y a des tas de sujets qui s'ouvrent. Il y a la question, on ne l'a pas évoqué, mais on en reparlera peut-être, de décentralisation, déconcentration, le rapport au territoire. Là aussi, il y a des enseignements à en tirer. Et moi, je trouve utile que dans le groupe de La République En Marche, un certain nombre de gens expriment des choses, que le groupe MoDem exprime des choses parce que ça sera utile. Au fond, si dans l'opposition, il y a un certain nombre de parlementaires ou de partis politiques qui veulent exprimer des choses, c'est une bonne nouvelle. Si on est au service du pays, c'est une bonne nouvelle, parce que je pense que les citoyens, ils acceptent. Et ils veulent du débat, ils veulent de la confrontation d'idées, mais ils veulent aussi qu'on avance. Et c'est ça qu'il faudra faire dans les mois et les semaines qui viennent.
Alors comment avancer, relancer, reconstruire, relever ? On se retrouve.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré,
Johan Usaï,
Mickaël Darmon.
Et on retrouve Marc Fesneau, ministre des Relations avec le Parlement, qui pense que c'est l'ère du doute et qu'il n'y a pas beaucoup de certitudes à avoir. D'autres en ont, et très dur. On écoute Bruno Le Maire.
Il y aura des faillites et il y aura des licenciements dans les mois qui viennent. Tout simplement parce que même si l'économie redémarre, elle ne redémarre pas au même rythme, que vous avez beaucoup de commerces, beaucoup de secteurs qui sont très durement touchés.
C'est rare, Marc Fesneau, d'entendre ça dans la bouche d'un ministre. Est-ce que c'est une manière, évidemment, on l'imagine bien, de préparer les esprits? Ça veut dire que les mois qui viennent seront économiquement très, très difficiles?
Oui, et je trouve que Bruno Le Maire a raison de faire œuvre de vérité. On voit bien qu'il y a un certain nombre de secteurs, on en parlait un instant, qui sont en grande difficulté, dont on voit mal les voies de rebond immédiates, en tout cas. Il y a un certain nombre de dispositifs protecteurs qui ont pu être faits et décidés par l'État, mais on voit bien qu'il y a un certain nombre d'entreprises, de grandes entreprises ou leurs sous-traitants, qui sont en grande difficulté et qui pourraient se retrouver dans la situation d'avoir à procéder à des licenciements. Et donc, c'est toute notre préoccupation dans les mois qui viennent, à la fois de trouver des dispositifs qui continuent à amortir, et c'est tout le débat qu'on aura dans les semaines qui viennent sur comment on prolonge les dispositifs de chômage partiel et comment on fait en sorte de relancer l'économie pour ne pas se retrouver dans une situation qui produise du chômage massif, comme on le voit par exemple aux États-Unis, où il n'y a aucun système protecteur.
Est-ce que c'est une manière aussi de dire aux Français, quand on entend ces mots très durs, est-ce que c'est une manière de dire aux Français qu'il faut se préparer à faire des efforts, des sacrifices?
Mais moi je crois que les Français, ceux qui ont travaillé pendant le confinement et ceux qui ont télétravaillé pendant le confinement et ceux qui sont repartis quand ils le pouvaient au travail à partir du déconfinement, ils ont tout à fait conscience de la situation dans laquelle et de la difficulté dans laquelle on est. Je pense que c'est collectivement qu'il faut qu'on essaye de trouver le chemin de la reprise économique. Je n'aime pas le concept par postulat de dire aux Français vous devez de promettre de la sueur, du sang et des larmes.
Mais c'est au fond, un peu quand même ce qui est annoncé quand même. Hein.
Mais qu'on fasse face aux difficultés et qu'on dise on va avoir des difficultés et il faudra qu'on essaie de trouver ensemble les voies et moyens pour les salariés, pour les chefs d'entreprise, de mieux répartir la richesse, de faire en sorte qu'on retrouve les voies et moyens de la prospérité, je pense qu'on fait œuvre utile en le disant aux Français, oui.
Nicolas Barré.
Vous voyez bien que dans ce souci de relance, il y a en fait deux lignes. Il y a ceux qui veulent relancer tout de suite la machine, et puis ceux qui disent, oui, il faut relancer, mais en même temps faire de la relance verte. Est-ce que il faut imposer cette contrainte verte en même temps, ou au contraire sacrifier un peu tout ça et relancer tout de suite? Vous êtes sur quelle ligne?
Il faut les deux. Au fond, qu'est-ce qu'on dit? On dit, reprenons le secteur automobile ou aéronautique, il faut immédiatement des mesures qui préservent les entreprises dans leur simple existence, au fond. Parce que si on veut faire un jour plus de voitures électriques et que puissamment nos constructeurs automobiles fassent plus de voitures électriques ou de voitures propres, il faut qu'ils existent encore.
Donc quitte à mettre le côté vert,
mais on met rien
entre
de côté.
Parenthèses,
la question n'est pas de mettre de côté, mais dans le moment dans lequel on est, il faut qu'à la fois ils puissent survivre et vivre, et deux, qu'on envoie très clairement les signaux qui leur permettent d'aller plus vite dans un certain nombre de transitions. Et je crois que ce double mouvement, il est possible. Ça n'est pas l'un sans l'autre. Si nous décidions brutalement qu'il ne faut faire plus que des voitures électriques, aucun constructeur ne peut résister à ça aujourd'hui. Il faut dire la vérité aussi. Mais on a besoin d'aller vers plus d'électriques.
Il y a un stock à écouler de voitures, au fond, entre guillemets, à l'ancienne.
Oui, bah, il y a aussi d'abord les voitures
achetées.
Qui ont été produites. Et elles étaient déjà, d'ailleurs, pour un certain nombre d'entre elles, moins polluantes et plus propres en termes de dégagement de CO2. Il faut dire les choses comme elles sont. Mais on peut à la fois dire on a une urgence immédiate. On le doit pas aux chefs d'entreprise, je vais vous le dire. On le doit aux salariés. On le doit à tous ces gens qui, chaque jour, essayent de produire des véhicules et qui sont responsables de rien de cette affaire de coronavirus. D'ailleurs, au fond, personne ne l'est fondamentalement. Nous, on est en situation de responsabilité. Et nous, en situation de responsabilité, qu'est-ce qu'on doit faire? Assurer le fait que ces grands opérateurs, pour reprendre l'exemple automobile, vivent, survivent dans la période difficile dans laquelle ils sont, et par ailleurs qu'on ait des orientations assez claires sur le chemin vers lequel on veut les emmener. C'est ça qui est le défi devant nous, il est là. Ça n'est pas l'un contre l'autre. C'est pas un modèle contre un autre. Mais on voit bien qu'il faut qu'on fasse évoluer le modèle.
Le groupe Modem, par la voix de son président, le groupe Modem à l'Assemblée, se prononce pour réinscrire de nouveau dans le calendrier parlementaire la réforme des retraites. Alors, Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, a déjà répondu dans une interview aux Échos d'ailleurs que dans le contexte actuel, ce serait une très mauvaise idée de remettre ça sur le tapis. Pourquoi est-ce que vous voulez rallumer ce foyer de tension ?
Pardonnez-moi, deux choses. La décision du gouvernement a été de sursoir sine die à la réforme des retraites. Je maintiens la position qui est celle du gouvernement. En revanche, le président du groupe Modem, Patrick Mignola, a dit une chose qui n'est pas fausse, c'est qu'il y avait dans le projet de loi des retraites un certain nombre de choses qui nous paraissaient être des avancées sociales. Le minimum de retraite, le fait de lutter contre les effets pervers des carrières hachées, en particulier ce que ça pouvait avoir comme effet sur les carrières des femmes. Est-ce que ces questions sont derrière nous ? Non, elles sont toujours là. Nous avions prévu de revaloriser les retraites des agriculteurs. Est-ce que c'est une question qui est moins présente avant, après qu'avant le coronavirus ? La réponse est non. Donc au fond, il reste cette question. On n'est pas dans la temporalité immédiate. Là aussi, il faut réfléchir en forme de temporalité. Mais les questions qui étaient posées sur l'équilibre du système de retraite, la question de la justice entre les systèmes, avec l'ensemble des régimes spéciaux, et la question de la justice par rapport à un certain nombre de salariés qui sont les perdants du système de retraite, et d'ailleurs Laurent Berger lui-même le disait, même si on avait des désaccords sur un certain nombre d'éléments, il était plutôt favorable à la retraite par points, si je me souviens bien. Pourquoi ? Parce qu'il estimait que c'était un système plus juste.
Par rapport au projet de régime, nous, sa colère aussi pendant
le conflit. Qu'on repose les bases de ce pourquoi nous avions voulu cette réforme des retraites et qu'à un moment ou un autre, il puisse réémerger dans le débat public, je ne pense pas que ce soit une mauvaise nouvelle. En même temps, il n'est pas inscrit à l'ordre du jour du calendrier parlementaire. Ça, c'est le ministre des Relations avec le Parlement. Mais les sujets que portaient...
C'est explosif quand même, parce que la perception est quand même...
Vous m'entendez ? Vous m'entendez ?
Oui, j'entends, mais...
Il n'est pas à l'ordre du jour du calendrier parlementaire. Mais les questions qui étaient posées, ce n'était pas un texte pour se faire plaisir. C'était un texte, ça se saurait, me semble-t-il, pour avoir vécu cette période. C'était un texte dont on pense toujours et on pensait qu'il pouvait porter en germe un certain nombre d'éléments de justice. Ce que partageait, même si on avait des désaccords avec un certain nombre de syndicats dits réformistes. Et donc, cette question-là reviendra.
Cette nécessité... C'est un grand malentendu avec les Français aussi.
Oui, mais je ne dis pas que ça avait été facile. Je dis simplement que ce qui avait prévalu avant le coronavirus... en termes de justice, reste sur la table. Et donc, il faudra bien qu'un jour ou l'autre, on le résolve. Patrick Mignola et d'autres ne disent pas autre chose,
alors,
tout simplement.
Pour tenter de dessiner ce fameux monde d'après, la prix Nobel d'économie Esther Duflo dit qu'il faut rétablir aujourd'hui l'ISF pour relancer justement les questions de justice sociale et économique. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Tout le monde dit qu'il faut penser le monde d'après et tout le monde revient dans le monde d'après avec les idées du monde d'avant. Voilà ce que j'en pense. C'est-à-dire que ceux qui étaient pour le rétablissement de l'ISF pensent après le coronavirus qu'il faut être pour le rétablissement de l'ISF. Ceux qui étaient pour l'augmentation des impôts d'une manière globale pensent, ou de la dépense publique pensent qu'il faut continuer à le faire. Ceux qui pensaient l'inverse pensent qu'il faut continuer à... Ceux qui pensent qu'il faut travailler plus... continue à penser, après le coronavirus, moi je pense qu'il faut un peu décaler notre regard. Pourquoi nous avions supprimé une partie de l'ISF, puisqu'il y avait resté un impôt sur la fortune immobilière ? C'était avec la ferme volonté que ce prélèvement permettre l'investissement dans le tissu industriel et productif français. Et au fond, c'est ce qui s'est passé quand même. Le signal qui avait été envoyé, et qui était la volonté du gouvernement et du président de la République, était un signal de... tous ceux qui veulent développer l'industrie et l'économie sont les bienvenus en France. Il avait plutôt réussi. On avait 1500 projets en 2019 d'investissement étrangers en France. On avait beaucoup raillé ce qu'avait fait le président de la République de faire venir un certain nombre de grands chefs d'entreprise étrangers pour essayer de les attirer vers nous. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, c'est à cette aune-là qu'il faut regarder. Après, qu'il y ait des éléments de justice sociale qu'il faille regarder, qu'il y ait des éléments de symbole de la justice sociale. Évidemment, que ceux qui gagnent le plus contribuent plus que les autres. La réponse est oui. Mais voyez bien d'ailleurs que le défi budgétaire qui est devant nous, il n'est pas à la hauteur de l'ISF. Voyez bien les centaines de milliards d'euros ou les milliers de milliards d'euros qu'il va falloir à l'échelle planétaire et qui ne sont pas à l'échelle. Alors après qu'on pose la question de comment on taxe mieux les GAFA, comment on va encore plus loin alors que nous avons déjà beaucoup avancé dans ce gouvernement sur la question de la fraude fiscale, mais encore plutôt que de la fraude de ceux qui détournent mais qu'ils font dans un cadre légal. Les procédures fiscales, oui. Que les grands opérateurs internationaux soient plus soumis à l'impôt, oui. Mais c'est comme ça qu'il faut le regarder, comme un élément qui contribue à la justice et pas comme un élément de coercition ou punitif.
Marc Fesneau, vous êtes ministre des Relations avec le Parlement. Quand le Parlement reprendra-t-il un fonctionnement totalement normal, déconfiné, avec la possibilité de pouvoir faire participer l'ensemble des députés au débat parlementaire et démocratique?
La difficulté dans laquelle on se trouve, d'abord, ça, il n'appartient pas, au nom de la séparation des pouvoirs, pardonnez-moi de le rappeler, au ministre des Relations avec le Parlement,
mais quel est votre souhait, quelle est votre analyse, vos conseils? Non,
c'est une décision qui est une décision, il faut quand même le rappeler, parce que dans le moment un peu chahuté qu'on a eu, c'est bien de rappeler les principes un peu institutionnels dans lesquels on vit. Ça appartient à la décision des présidents des deux assemblées. Deux, ils sont sous la contrainte, ou en tout cas sous la nécessité de respecter un certain nombre de normes et de règles qui ont été édictées par les autorités sanitaires, qui sont la distance physique. Je préfère le mot de distance physique à distance sociale, au mot de distanciation sociale. Et le fait de préserver les uns et les autres, il vous aura pas échappé qu'à l'Assemblée nationale, un certain nombre de députés avaient été touchés en tout début d'épidémie, et de personnel. Et donc, il faut protéger les personnels, il faut protéger les députés. Et donc, on a progressivement élargi le nombre de députés et de sénateurs présents, on a progressivement élargi le nombre de ministres présents. À vue moyen terme, à vue de l'été, on va dire, c'est cet élargissement qui est en train d'être mis en œuvre. Je ne vois pas qu'on puisse se retrouver à 577 à ce stade. En tout cas, c'est ce que dit le président Ferrand et c'est ce que dit aussi le président Larcher. C'est une difficulté sanitaire devant laquelle... Et en même temps, les institutions fonctionnent. Moi, j'ai été au Bandé le 23 mars pour la première loi d'urgence avec d'autres collègues. On était en effectif très réduit, puisqu'on était une vingtaine dans chaque hémicycle. La démocratie, elle a continué à fonctionner avec les difficultés face à lesquelles on était. Mais le contrôle parlementaire s'est effectué, les lois ont été votées, le Conseil constitutionnel a pu œuvrer. Donc, dans toutes les démocraties, on voit bien qu'on a été chahuté par cette crise de coronavirus. On a plutôt été exemplaire en termes, de préservation de l'essentiel du fonctionnement démocratique. Il y a des pays en Europe qui se sont largement affranchis, qui ont profité un peu parfois des questions sanitaires pour mettre à bas les principes fondamentaux.
Ça a provoqué effectivement
mais ça n'est pas parfait. Si vous voulez me faire dire que ça n'est pas débat, parfait, oui, absolument. Et que ça peut être insatisfaisant pour les parlementaires qui aimeraient siéger tous, oui, mais je reconnais que pour les uns et les autres, c'est pas facile. Et je reconnais aussi que, comme pour les Français, ils s'astreignent à une discipline qui est une discipline auquel il faut qu'on s'astreigne dans cette période de déconfinement.
On se retrouve dans quelques instants avec Marc Fesneau.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré,
Johan Usaï,
Michaël Darmon.
Et avec Marc Fesneau, ministre des Relations avec le Parlement, alors que le calendrier parlementaire donc, sera chargé effectivement après ce confinement, Johan Usaï.
Oui, parce qu'Olivier Véran veut aller très vite. Il veut boucler son plan santé d'ici mi-juillet. Alors deux questions qui sont liées. Quand serez-vous en capacité de le mettre à l'ordre du jour du Parlement et quand pourrait-il être adopté définitivement ?
Il y a plusieurs éléments. Il y a des éléments qui relèveront sans doute du PLFSS et qui donc seront adoptés à l'automne. On peut à la fois annoncer un certain nombre de choses et avancer, si je peux dire en temps masqué, que les choses puissent se mettre à l'œuvre et qu'il y ait une traduction budgétaire à l'automne. Est-ce qu'il y aura besoin d'éléments législatifs qui permettront, parce qu'il y a des éléments d'organisation? Ça, il appartiendra à Olivier Véran de nous le dire, et à ce moment-là, on trouvera dans le calendrier parlementaire les éléments, dès lors que c'est une priorité du gouvernement, comme vous l'avez compris, pour le faire. Il y a plusieurs sujets dans ce plan santé. Il y a la question de la revalorisation.
Ça pourrait être fait à l'automne. La revalorisation, mais l'augmentation
c'est
à l'automne.
C'est un élément budgétaire. Ça peut se faire au PLFSS de façon assez...
Donc les soignants verront sur leur fiche de paie l'augmentation mais avant la fin de l'année.
Laissez à Olivier Véran le soin, et je le laisse en tout cas à moi.
Vous venez de le dire.
Non, je dis que s'il y a des traductions budgétaires...
Il y en aura, c'est annoncé.
Oui, elles seront traduites pour le PLFSS 2021, c'est-à-dire à l'automne 2020. Et donc, c'est à ce moment-là que les choses se traduiront d'un point de vue concret.
Donc vraisemblablement sur les fiches de paie à partir du 1er janvier.
Vraisemblablement, mais il peut y avoir aussi, il y a des éléments d'ailleurs d'annonces qui ont été faites dès à présent sur un certain nombre d'éléments, donc il peut y avoir des éléments de rattrapage. C'est Olivier Véran qui donnera le cadre, et le Premier ministre qui donnera le cadre de ces plans santé. Puis il y a d'autres éléments qui sont, on voit bien qu'il y a eu des sujets de revalorisation, puis il y a des sujets d'organisation.
Oui.
Et les sujets d'organisation soit nécessitent des mesures réglementaires, et ça c'est le gouvernement directement qui les prend, soit des mesures législatives sur la répartition. On voit bien qu'il y a une question, moi me semble-t-il, qui est une vraie question et qu'on entend chez les personnels soignants, qui est que les personnels soignants aient plus la parole dans les décisions qui sont prises au niveau des établissements. Ça, c'est peut-être des éléments
c'est
législatifs.
C'est le rôle de Nicole Notat, tiens, qui va les écouter, qui est chargé donc, de piloter aussi.
C'est une bonne nouvelle.
Ce plan, pour vous, c'est une bonne nouvelle. C'est le signal, un des signaux sociaux que veut envoyer le gouvernement.
Mais
le
c'est la volonté, mais pardonnez-moi de vous dire que ce plan santé, il est la continuité d'un certain nombre d'éléments qui avaient été mis sur la table. Ma santé 2022.
Considéré comme une erreur par le président de la République lorsqu'il est allé à la pitié salpêtrière.
Non, il a dit qu'on n'avait pas été assez loin et qu'on sans doute il y avait des éléments de diagnostic qui avaient été mal posés. Mais la question de la prévention, la question de la revalorisation des carrières, la question de l'organisation des systèmes de soins, la question de sortir de la tarification à l'acte, elle avait été posée dès cette période-là. Simplement, il faut accélérer un certain nombre de choses et la crise du coronavirus vient montrer un certain nombre de difficultés ou de défauts du système qu'il faut qu'on corrige. Et donc c'est dans ce cadre-là que les choses seront faites.
Nicolas Barret.
Il y a beaucoup de réflexions, et vous en avez abordé, sur le projet pour l'après. Hein. On parle beaucoup de tout ça. On ne sait pas très bien ce qu'on va mettre là-dedans. On entend parler d'un grand discours du président de la République aux alentours du 14 juillet. Vous-même et au Modem, qu'est-ce que vous aimeriez voir comme contenu pour, disons, la fin du quinquennat?
Il ne m'appartient pas de dire ce que j'aimerais voir comme contenu, mais je vais vous dire ce que je pense. Il me semble qu'on a quelques éléments que j'ai essayé de tracer tout à l'heure. Cette crise, elle révèle quoi? Les fragilités immenses de nos systèmes économiques d'interdépendance, la nécessité de reconquérir, au fond, une forme d'indépendance stratégique. D'ailleurs, le président de la République l'avait déjà dit dans son programme présidentiel, au fond. La question des masques aura été une question très symbolique, mais la question des médicaments, la question d'un certain nombre de pièces des systèmes dans lesquels nous sommes bloqués dès lors qu'un pays vient en difficulté. La question de comment on rend nos systèmes plus résilients, c'est-à-dire plus capables de résister à des crises comme celles qu'on a vécues sanitaires. Mais demain matin, vous pourriez avoir une crise agricole qui fasse que sur les céréales, il y a une maladie qui fasse que la moitié des récoltes, ou sur une question de sécheresse. On aurait face à nous un problème quantitatif et un problème de hausse massif des prix des denrées agricoles et des denrées alimentaires pour les Français. Là aussi, comment on a des filets de sécurité qui nous permettent de faire en sorte qu'on puisse résister à ça? Parce qu'on a devant nous des défis climatiques,
et
des défis épidémiologiques.
Peut-être d'autres épidémies, certains
le disent. J'ai dit des défis épidémiologiques qui doivent nous nécessiter qu'on repense nos systèmes à l'aune de ce qu'on aura vécu pendant la période du coronavirus. Troisième élément, je pense que cette crise, elle aura révélé aussi l'envie, et le besoin d'ailleurs, de proximité. Au fond, comment on sort de la grande distance. Et puis, dernier élément, c'est pour vous donner quelques pistes, ou deux derniers éléments. Le premier, c'est la nécessité de sortir. On voit bien que le tourisme, il est profondément heurté par la question du tourisme de masse. Parce qu'au fond, on voit bien que le tourisme demain, il ne sera pas sur le même modèle. La consommation de masse, ça aussi, ça doit nous interroger, y compris dans la question de la transition écologique. Et donc, il faut qu'on repense le modèle économique à l'aune-là. Et on voit bien, à cette aune-là. Et donc, on voit bien qu'on est sur du long terme. Et puis, dernier point, il me semble qu'il y a une question qui va être posée et qui est posée par cette crise. Je m'arrête à deux, donc de plus, qui est la question territoriale. C'est comment on crée des systèmes qui soient plus responsabilisant territorialement et d'une certaine façon plus agile, et comment l'État joue sa partition à l'intérieur de ça. L'État, il a été très présent dans cette crise, au fond. Et en même temps, on voit bien qu'il y a une demande des territoires, et quand je dis des territoires, c'est pas seulement des élus locaux dont je suis, c'est aussi une demande des citoyens, d'adapter les choses à leur réalité territoriale. Et donc on a aussi à penser, c'est l'un des principes ou des éléments fondateurs de notre formation politique du Modem, et François Bayrou le porte souvent, qui est la question de la décentralisation et de la différenciation.
Et du dépassement tel que la prône également.
Et du dépassement, c'est le fondement de l'engagement que nous avons eu auprès du président de la République en 2017.
Recherché également actuellement par le président de la République. Mais comment rassembler les Français autrement qu'en rendant hommage au général de Gaulle?
Le général de Gaulle
est une... Comment aujourd'hui, au XXIe siècle, avec tous les défis que vous venez d'évoquer, on peut trouver un projet rassembleur qui ne passe pas forcément par l'évocation, certes respectable, mais l'évocation toujours
mais
historique du général de Gaulle.
Pardonnez-moi, mais évoquer les figures historiques dans ce qu'elles ont eu de symbolique pour la France, et plus que de symbolique d'ailleurs, la figure du général de Gaulle n'est pas la moindre des figures historiques, parce que c'est une figure de rassemblement, de résistance à l'adversité, n'est jamais une mauvaise chose. Après, vous voyez bien que ce que j'essayais de dresser devant vous comme grand sujet, dans le cadre d'une transition, en fait c'est une transition complète qu'il faut mener. C'est pas qu'une transition écologique, c'est une transition de modèle de société. Ça nécessite peut-être, au-delà de mettre sur la table simplement des mesures, de dire est-ce qu'on pense la société pareil les uns et les autres, et est-ce qu'autour de la table, il n'y a pas moyen de trouver un certain nombre de partis
de formations politiques ou des gens qui pourraient partager avec nous, non pas des places dans un gouvernement, mais qui partagent avec nous une vision.
Sur l'après, aujourd'hui, dans un long entretien accordé au JDD, Gérald Darmanin déclare qu'il faut mener une politique pour le peuple, réparer les inégalités sociales. Ça ressemble quand même fortement à une feuille de route pour l'acte 3 du quinquennat, tout ça.
Et une offre de service pour lui-même ?
Ça ressemble, en tout cas, moi je partage le point de vue de Gérald Darmanin, parce que je pense qu'il y a une nécessité que tous les sujets de transition que nous devons mener, qui sont des défis immenses pour nos sociétés, doivent être faits avec les citoyens, avec le peuple, pas contre lui. Pas avec le sentiment que ça se fait sans lui. Et la question démocratique va être éminente, hein, parce que la question démocratique, elle a été au cœur, y compris du débat sur comment gérer cette crise. Tout a été bouleversé. Le champ politique, le champ scientifique, tout, le champ médiatique, tout le monde a été un peu percuté par la façon dont le coronavirus a fait irruption sur la scène publique. Et deux, il faut qu'on accompagne la transition. Et donc, il faut le faire avec les citoyens, avec les gens, pour dire des choses très simplement. Et donc, c'est un défi qu'on a devant nous, qui est un défi de répartition de richesses, qui est un défi de, comment dirais-je, de collectivement appréhender les sujets et de collectivement appréhender les réponses.
Mais une fois de plus, Gérald Darmanin, comme il le fait d'ailleurs régulièrement depuis les Gilets jaunes, au fond a l'air de dire le macronisme est un petit peu coupé du peuple. Il faut reparler au peuple. C'est le défi.
C'est pas ce que j'ai lu dans l'interview que vous citiez ce matin, mais la nécessité. Nos grandes démocraties, elles sont heurtées. C'est le monde dans lequel on vit est un monde éminemment complexe. Et au fond, dans lequel on a parfois évincé les citoyens. C'est pas propre à la démocratie française. C'est un sujet qui vient percuter toutes les démocraties du monde et qui tend, des fois, à certains, à aller vers le populisme et les réponses un peu simples. Donc on a besoin de montrer le monde dans sa complexité et d'accompagner avec le changement avec les citoyens. C'est ça le sujet qui est devant nous. C'est pas un sujet de ce quinquennat, c'est le défi du siècle. Parce que si nous n'arrivons pas à ça, nous irons aux extrêmes.
Le macronisme devait transformer la France. Aujourd'hui, il faut juste la préserver.
Non. Quand on regardera et qu'on regarde déjà le bilan au bout de 3 ans, on a transformé un certain nombre de choses. Sur l'apprentissage, on a transformé un certain nombre de choses. Sur la transition écologique, on n'a sans doute pas été assez loin. Mais enfin, on a posé des actes sur ces sujets-là. Sur la transformation de l'appareil productif, on a posé des actes. Sur la question de la différenciation territoriale, c'est le président de la République qui en parle le premier en 2017 et personne d'autre. Et donc, on a posé des actes. Il faut sans doute aller plus loin et accélérer sur un certain nombre de sujets. Mais il me semble que ce que nous avions voulu autour du président de la République en 2017, c'est plus que jamais vivant. La stratégie du dépassement pour faire face à des défis qui sont immenses.
Merci beaucoup, c'était le rendez-vous. Merci de Marc Fesneau. Vous pourrez retrouver cette émission sur podcast, diffusée sur CNews à 12h. À dimanche.